Marx disait « Dans la famille, l'homme joue le rôle de bourgeois et la femme de prolétariat. » Mais qu'en est-il de l'enfant ? Bonjour à tous, bienvenue dans la première émission de Ouvre-la, une émission de jeunes. On est diffusé en direct sur Radio Cause Commune en FM 93.1 à Paris et dans sa région, ou en DAB, ou sur internet à l'adresse causecommune.fm, où vous pouvez aussi nous écouter en podcast un peu partout où vous allez. Si vous êtes comme moi, vous soupirez déjà du dimanche, de devoir retourner demain voir votre collègue fan de Trump qui insulte les Arabes et les PD. Moi aussi, sauf qu'en plus, j'ai 2 heures de français juste après manger. Je m'appelle Solal, j'ai 15 ans, je suis lycéen, et moi, avec mon père Joseph...
Bonjour.
Je viens vous présenter cette émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'insultes, de mon bac blanc et des élections américaines.
Attends, t'as dit que t'étais jeune ?
Oui.
Et t'as commencé tout ça par une citation de Marx ?
Oui, la politique, ça contamine de plus en plus les gosses, hein, maintenant, vous le savez.
Ok. Bon.
On commence maintenant avec les insultes. Alors, aujourd'hui, tous les jeunes le savent, et je pense qu'à peu près tout le monde le sait, on se fait insulter partout et on insulte tout le temps. Que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, ou même entre nous pour blaguer, on a l'habitude de se traiter de connard, de salope ou de pédé. Et pourtant, les insultes, c'est hyper symptomatique des problèmes de la société. Que ce soit dans leur étymologie ou de là où ils proviennent, on rappelle par exemple que pédéré, ça vient de pédérastes, qui sont des vieux monsieur qui couchent avec des jeunes garçons, ou que con, ça vient de la femelle du lièvre, qui à l'époque était un moyen de dire la chatte. Et ça nous ramène à quelque chose qui est assez essentiel dans notre société, être une femme ou un pédé, c'est la honte. Que ce soit se faire traiter de salope ou de fils de pute, où on est défini par une femme, ou d'enculé, ou la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de se la prendre. Aujourd'hui, dans la sphère internet française, notamment chez les personnes de moins de 25 ans, on a un nouveau terme qui apparaît, c'est le terme de Tana.
Tana ?
Tana, c'est une toute nouvelle insulte qui vient de Hannah Montana.
Hannah Montana, tu sais qui c'était ?
Absolument pas.
C'était un personnage de Disney, c'était une des Disney Girls.
Ok. Mais aujourd'hui, Tana, ça veut à peu près dire pute. Et aujourd'hui, on va laisser quelqu'un de très concerné par ce sujet nous en parler. Kaina, qui a 17 ans.
Bah, en gros, une Tana, c'est sera un peu une pute, en gros. Donc en fait, c'est une fille, du coup, qui se respecterait pas. Donc par exemple, qui mettrait des leggings, bah, c'est une Tana parce qu'elle monte ses fesses ou des choses comme ça. Et en fait, c'est un terme qui s'est popularisé par rapport à une chanson. Et en fait, les filles, pour essayer d'inverser la tendance, de se faire insulter, du coup, elles ont pris ça à leur avantage et se dire, bah, ok, nous, on est des Tana parce qu'on se maquille, on est des Tana parce qu'on fait ça. Les gestes simples du quotidien que même des garçons feraient, bah, on est des Tana parce qu'on le fait. Du coup, en gros, c'est un petit peu ça, une Tana. C'est une pute, en gros. Et du coup, bah, les filles, elles ont pris ce terme pour justement, renverser la tendance. Parce que, bah, du coup, les garçons, ils sont, enfin, pas que les garçons, mais plein de gens s'amusent, du coup, à penser que les filles, bah, parce qu'elles font quelque chose, bah, c'est des putes, du coup. Bah, du coup, les filles ont pris ça à leur avantage pour dire, bah, écoutez, nous, on fait ça, bah, écoutez, on est des tanas, on est fiers de l'être. Parce qu'en fait, c'est un terme, du coup, qui est moins choquant que pute, du coup. parce que bah, c'est un nouveau mot, tout ça. Ça a l'air d'une chanson, c'est popularisé par les réseaux sociaux. Du coup, bah, on a plus tendance à l'utiliser que pute, du coup.
Du coup, est-ce que toi, tu t'es déjà fait traiter de Tana, peu importe le contexte, et pourquoi tu t'es fait traiter de Tana?
Oui, bah, par mes potes, pour rigoler, même moi-même, j'ai dit, bah, écoute, moi, je suis une Tana, du coup, parce que j'ai participé aussi au truc, et même ma mère a dit, bah, écoute, allons à Tana Land, parce que du coup, elle aussi a vu un peu la tendance se faire, et bah, elle en a rigolé, du coup, parce que c'est assez ridicule. Enfin, au niveau des gens qui disent qu'on est des Tana, sincèrement, qu'ils le pensent, quoi. Mais jamais par des garçons, des trucs comme ça, genre, ça venait jamais, c'était jamais sincère. C'est jamais « Ah oui, t'es une vraie Tana ». Et quand je vois sur les réseaux bah, des filles qui postent un TikTok ou par exemple qui ont un petit t-shirt un peu décolleté ou juste un peu moulant, bah, vont se faire traiter juste de Tana, juste parce qu'elles vivent en fait, juste parce qu'elles respirent. Je trouve ça un peu abusé, quoi.
Et du coup, pour toi, Tana, c'est même plus une insulte aujourd'hui, ça devient quasiment un compliment au final, ou une blague.
Mais en fait, quand c'est dit par une fille en gros qui a compris le truc, bah pour nous c'est un compliment parce que du coup bah c'est un peu ce mouvement des femmes qui font un peu ce qu'elles veulent, alors que si c'est vraiment par un garçon qui me traite de Tana, bah je le prendrais pas trop bien, quoi. Parce que enfin, même peut-être j'en rigolerais parce que c'est un peu ridicule qu'ils le disent en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'ils se rendent pas compte du truc en fait, c'est juste un imbécile qui pense que parce qu'une femme elle respire, bah c'est une Tana. Donc, c'est un peu ridicule, quoi. Je suis une Tana et fière de l'être, voilà.
C'est une Tana et fière de l'être. Où est-ce que t'as enregistré cette interview?
Cette interview, je l'ai enregistrée à l'internat auquel je vis la majorité de la semaine.
Mm-hmm.
Avec Kaina, qui est une autre lycéenne en terminale, elle. Et c'était un sujet que je savais qu'il la tenait à cœur, non seulement parce que c'est un sujet féministe, mais aussi juste parce que c'est quelque chose qui l'a fait rire. Et ça lui a permis, je pense, de s'exprimer sur ce sujet qu'elle apprécie plutôt.
Okay. Voilà. Et c'est quoi Tana Land?
Tana Land, c'est une tendance, pardon, pour les vieux, sur les réseaux sociaux qui s'est lancé. C'était la création d'un pays un peu fictif qui accueillerait, entre guillemets, les Tanas, c'est-à-dire ce serait un pays uniquement féminin, dirigé par un matriarcat, qui réunirait toutes les filles qui se sont fait traiter de Tana pour qu'elles vivent, entre guillemets, en paix entre elles. Sans être dérangé. Et c'est là qu'on voit la portée un peu libératrice qu'a eu le terme, parce que elle a permis à des filles de s'organiser entre elles et d'inventer ce pays juste pour honnêtement faire chier les mecs qui les insultaient. Et non seulement c'est un témoignage de solidarité féminine, mais c'est aussi une très très bonne blague qui a été faite et qui a énervé plein de mecs misogynes.
C'est quoi la blague?
La blague, c'est reprendre et se réapproprier ce terme de Tana et y associer une identité qui est celle d'être une femme libre.
Ouais, se réapproprier le stigmate pour pas en être dépendant, que ce soit pas simplement une insulte dans la bouche des autres, mais pouvoir le reconnaître pour soi-même comme quelque chose de valorisant, de positif.
Exactement, et c'est ce qui a permis aussi de ne pas laisser le terme évoluer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, traiter quelqu'un de Tana, c'est ridicule. Mis à part quand c'est un groupe de garçons face à une fille seule, en général, traiter une fille de Tana, c'est très très mal vu parce que c'est admettre qu'on est stupide en tant que garçon, c'est admettre qu'on a perdu la blague qui a changé en fait.
Ok. Et ta camarade, dans son interview, elle parle d'une chanson. Elle dit que le terme a été utilisé la première fois dans une chanson. On sait quelle chanson c'est ? Non, mais si tu l'as pas, tu l'as pas. Hein,
pour c'est... le coup, je l'ai pas. Il me semble que c'est... Enfin, c'est une chanson de rap, honnêtement. Mais j'ai oublié le terme. Enfin, la chanson, la première chanson qui l'a propulsée.
Ok. Est-ce que toi, tu utilises des insultes? Et pour toi, à quoi ça sert une insulte?
L'insulte, je pense que j'en utilise comme tout le monde. Personnellement, quand j'en utilise, c'est rarement pour blesser quelqu'un, parce que ça, c'est pas en accord avec ce que j'aime faire.
Même quand c'est ton prof de français?
Même quand c'est mon prof de français.
Celui que t'as à l'après-midi, là, le lundi?
Oui, bah, c'est une madame, et elle est très très... Personnellement, j'apprécie ses cours, ce qui fait peut-être de moi un lèche-botte, mais... Mais bon. Mais aujourd'hui, l'insulte, et notamment chez les lycéens, c'est utilisé comme moyen de montrer ses émotions. On n'a pas beaucoup de moyens acceptables de montrer ses émotions. Pourquoi ? Parce que, bon, pleurer et montrer de la tristesse, déjà, c'est hors de l'équation parce que c'est considéré comme faible. Et juste être joyeux, c'est aussi rabaisser parce que ça vous fait montrer trop de joie, ça vous fait passer pour quelqu'un d'un peu con et de bizarre. Et du coup, passer par l'insulte et la colère, c'est un moyen qui, par les autres lycéens, est considéré comme acceptable. Être violent avec ses pairs, c'est souvent qualifié de normal. Quand on dit à une fille qui se fait insulter, que oui, mais c'est normal, c'est des garçons... C'est que c'est normalisé. Aujourd'hui, l'insulte, même quand elle est pour rire et s'insulter entre guillemets entre potes, c'est quand même un moyen d'exprimer une émotion et c'est pour ça que ça va être parfois même agréable et montré comme un signe d'acceptation que de se faire insulter.
Ouais, c'est un peu le charriage entre potes. On se balance des vannes, on va inventer une nouvelle insulte.
C'est ça, ou un surnom ridicule, ouais. Un certain rituel d'humiliation. Mais aussi.
On peut peut-être se vanner sans s'humilier, non ?
On peut se vanner sans s'humilier. En général, ça va être lié l'un à l'autre à un certain moment. Notamment quand c'est des groupes de garçons qui sont adolescents et. Veulent paraître le plus masculin possible. Et c'est aussi pour ça que les démonstrations d'affection, elles sont réprimées aussi et elles sont remplacées par des insultes parce que faire un câlin ou montrer un signe d'affection physique à son ami, c'est associé immédiatement à de l'homosexualité. Et ça, c'est pas accepté. Et au contraire, c'est totalement déconseillé. Et les élèves qui vont... Les adolescents qui vont quand même faire ces démonstrations affectives, ils vont se retrouver stigmatisés à cause de ça. Que ce soit en se faisant insulter directement de PD... et qui veuille plus retenter l'expérience parce que se faire insulter, ça vaut pas forcément le coup, ou parfois bien pire, en se faisant harceler, tout ça.
Et ça, tu l'observes chez les garçons comme chez les filles, ou il y a une différence pour toi ?
Alors, on l'observe très très explicitement chez les garçons, parce qu'il y a ce désir de virilité, qui leur est inculqué et qui est entretenu. Chez les filles, il y a des démonstrations d'affection physique jusqu'à un certain point. Il va quand même, au bout d'un moment, y avoir des questions de « Ah, est-ce que vous êtes lesbienne ?» Et ça va souvent être insultant. Et en général, ça va aussi s'associer à... tout le reste, une fille qui est déjà considérée comme bizarre et qui fait des câlins à ses potes, oui, là, elle pourra se faire insulter, alors que une fille, entre guillemets, populaire, qui fait la même chose, ce sera plus accepté. C'est aussi tout cet écosystème d'interaction sociale et d'hiérarchisation populaire, pas populaire.
Ouais, t'as vachement intellectualisé le problème de l'insulte. Mais j'aime bien, c'est un point de vue qui est fouillé. Qu'est-ce que c'est, toi, tes insultes préférées? Oh là 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 là.
J'ai quand même, un peu malgré moi, une affection pour tout ce qui est insultes type pute, etc. Même si c'est des insultes qui sont très sexistes, je trouve ça toujours assez drôle, entre guillemets, de résumer quelqu'un au fait qu'il soit pas puceau. Et ça me fait beaucoup rire de voir des gens se faire à la fois traiter de puceau quand c'est des mecs et de pute quand c'est des meufs.
Ouais. Eh ben, c'était un bon sujet, les insultes. Tu nous as proposé un petit peu un morceau de musique qui s'appelle Machine Girl. Le titre, c'est Mother Father. On écoute ça et on se retrouve juste après. Bonne écoute sur Cause Commune.
Yeah.
On est toujours en direct sur Cause Commune et c'est une toute nouvelle émission. C'est le magazine de Solal, le magazine d'un lycéen le dimanche après-midi. Ça s'appelle Ouvre-la. Donc diffusé. Tu l'as ouverte. C'est diffusé où, Solal?
C'est diffusé sur Cause Commune en DAB ou en FM 93.1 ou encore sur Cause Commune, cause-commune.fm.
Ouais, partout sur Internet. Et puis peut-être en podcast, on va organiser ça juste après. Qu'est-ce que tu as prévu, de quoi as-tu prévu de nous parler après nous avoir parlé des insultes pendant plus de 10 minutes?
Alors, je suis en première et qui dit première dit bac de français. Alors si vous êtes pas au cas où vous seriez pas au courant, le bac de français, ça s'organise avec deux épreuves, une première à l'écrite avec une dissertation ou un commentaire de texte, c'est-à-dire qu'on parle d'un texte, un oral. Moi, à l'oral, j'ai un texte sur lequel je vais potentiellement devoir passer qui s'appelle L'exhortation aux hommes d'Olympe de Gouges. L'exhortation aux hommes, c'est le deuxième texte des quatre de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui est publié en 1791. L'oral, ça s'organise en deux temps. Premièrement, une lecture du texte et puis après, une explication personnelle, entre guillemets, de celui-ci. Et c'est comme ça que je vais faire ici, en commençant par vous le lire. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question, tu ne lui ôteras pas moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force, tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence quand tu t'en offres les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle des lumières et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclame ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. À ça, Olympe de Gouges, elle a rajouté une note de bas de page qui dit, et je cite, « De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. »
Le plus sot animal, elle dit ?
Le plus sot animal. Sot dans le sens...
Ah, le plus sot, le plus bête.
Le plus con.
Donc, de Paris à Hong Kong, le plus sot animal, c'est l'homme.
C'est l'homme.
Ok.
Alors, pour un peu de contexte, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, elle est publiée 2 ans après la Révolution française, ou en tout cas son début, et c'est à cette époque où on inscrit dans la Constitution que la femme est mineure et qu'elle est assouvie à l'homme.
Donc, ce que tu viens de nous lire, là, ça a été écrit en 1787, alors?
C'est ça, 1791.
91. Bah, ok, bon.
Elle publie la déclaration parce qu'elle est déçue de la Révolution.
C'est après la Révolution qu'elle l'a écrit.
Juste après la Révolution.
Ok.
Elle le publie parce que la Révolution les législateurs de l'époque proclament des idées de libération des opprimés, de donner des droits à ceux qui n'en ont pas et de retirer les privilèges. Et pourtant, ils gardent la femme comme assouvie à l'homme. Ce qui, pour Olympe de Gouges et pour nous aujourd'hui, avec notre regard, semble injuste et totalement stupide. Et ça, Olympe de Gouges, bah, elle dit tout ça rien que dans ce texte, qui est un texte polémique, donc elle veut concrètement que les mecs qui la lisent s'énervent. Et c'est pour ça qu'elle commence...
Bah, si elle les traite de sots de Paris à Tokyo, oui, ça risque d'en énerver quelques-uns. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs.
Et c'est pour ça qu'elle commence par « Homme, es-tu capable d'être juste ?» Bon, c'est une question rhétorique. Non, à l'époque, l'homme n'est pas capable d'être juste parce qu'il empêche sa compagne d'avoir des droits et l'assouvit.
Donc, l'assouvit ? C'est peut-être la servie.
La servie, pardon.
Ouais.
L'exhortation, c'est un texte qui s'adresse aux personnes qui savent lire à l'époque, c'est-à-dire des hommes riches et qui, du coup, ont du pouvoir. C'est pour ça qu'elle peut se permettre de s'y adresser, de s'adresser directement aux hommes dans les premières parties, même si, à la fin, elle ne tutoie même plus l'homme et elle se met à en parler à la troisième personne du singulier. Donc pour la note de bas de page qui est assez drôle, hein, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. Ça ressemble un peu à une comptine, c'est assez enfantin avec la petite rime, et c'est à peu près la même méthode qu'elle utilise quand elle dit que l'homme, il est bizarre, aveugle et boursouflé. C'est vraiment pour faire un portrait, bon, négatif, mais surtout ridicule de l'homme, pour en fait le faire redescendre. C'est aussi pour ça que elle tutoie l'homme, parce que celui-ci s'estime à l'époque supérieur. Olympe de Gouges, elle le dit, l'homme n'est pas plus supérieur et les femmes ont reçu toutes les facultés intellectuelles. C'est une démarche qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la politique, réduire son adversaire politique au ridicule, c'est assez commun. Sauf que là, Olympe de Gouges, elle a l'intelligence de pas faire que ça. Elle crache pas uniquement sur les hommes. Elle va aussi utiliser des méthodes, entre guillemets, plus juste pour faire réfléchir son lecteur. Quand elle dit « observe le créateur dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur », c'est une démarche qui est scientifique. À l'époque, la science et la religion sont encore très très mêlées. Et du coup, faire appel, bon, au créateur, mais surtout à la nature, quand on a un développement avec le siècle des Lumières, des sciences, c'est appeler aux valeurs des hommes à qui elle parle.
Ok, on était juste après la Révolution française, donc la valeur, c'était vraiment le scientisme, c'était...
Le scientisme, c'est le progrès,
ouais.
Le créateur et pas Dieu. Ouais. On parle... Les hommes des Lumières ont vraiment un espèce de blocage avec la religion chrétienne, où ils sont en semi-rébellion. Mmh. Et c'est pour ça que on parle du grand créateur et pas de Dieu ou de Jésus.
Ouais.
Et relier directement Dieu et la nature et montrer l'homme comme sortant de la trajectoire de Dieu, c'est aussi une insulte sur les principes, dans le sens où elle dit aux hommes qu'ils n'ont pas su suivre les enseignements de Dieu et qu'ils n'ont pas su suivre la nature. Quand elle dit que partout dans la nature on trouve les sexes confondus, ça veut dire que bon, bah, si on se fie à la science, on retrouve cette notion d'égalité des genres, d'égalité des sexes, qui aujourd'hui a évolué en féminisme.
Ok, et donc ça, c'est un texte que tu as eu à travailler pour ton bac blanc.
C'est ça, c'est un des quatre textes sur le parcours Olympe de Gouges que j'ai dû travailler pour le bac blanc et que je devrais potentiellement présenter à l'oral devant des jurys pour mon bac.
Mais comment ça va se passer? Pour nous qui avons passé le bac il y a longtemps, comment ça se passe? Toi, tu prépares tes analyses de texte?
On prépare ses analyses de texte, ouais. On les apprend par cœur, des plans, tout ça. Et on arrive devant un jury,
ouais.
On lit le texte en question et on en fait l'analyse. Donc du début à la fin.
Ah, il y a une lecture
fin,
à voix haute aussi?
Il y a une lecture à voix haute.
Okay.
Et on en fait une analyse du début à la fin. On analyse un peu l'ensemble, la manière dont les phrases sont construites. Si c'est de la poésie, ce sera les rimes. Là, vu que c'est un texte, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est un texte de loi, mais avec des passages, comme l'exhortation aux hommes, qui sont juste des discours, on va utiliser ces codes-là. Et surtout, là, on va utiliser les codes de l'argumentation, parce que c'est toute l'essence de ce texte. Donc, le genre polémique, où concrètement on va aller choquer les gens et les faire se sentir insultés, mais aussi faire ce qu'on appelle un ethos, c'est-à-dire se construire une personnalité et se donner une image au lecteur.
Ici, ouais, c'est ça, ouais, construis-toi une personnalité.
Olympe de Gouges, elle montre le fait qu'elle est intelligente, là. Quand elle dit « remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux et jette un coup d'œil sur les modifications de la matière organisée », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Olympe de Gouges, c'est une femme qui est scientifique. À l'époque, une femme, entre guillemets, normale, elle savait pas écrire son prénom. Olympe de Gouges, elle connaît la matière organisée. Elle sait ce que c'est une particule. À l'époque, c'est très très rare d'avoir des femmes aussi instruites. C'est quelque chose qui s'est développé avec les salons, qui étaient des regroupements mêlés hommes et femmes mixtes, ou avec des auteurs, des scientifiques, des artistes. Mais c'est encore réservé à la bourgeoisie.
Ouais.
Olympe de Gouges, elle arrive, elle vient de la campagne, Olympe de Gouges. C'est une révolution en elle-même d'avoir une femme qui est à l'époque ce qui se rapproche le plus d'une femme politique, en fait.
Mm.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que Olympe de Gouges, elle réussit à être politique alors qu'on lui a retiré tous ses droits dès la deuxième ligne. C'est une femme qui t'en fait la question, tu ne lui enteras pas du moins ce droit. On a retiré tous ses droits à Olympe de Gouges, il ne lui reste que la parole, et elle va tout faire pour propager son idée et faire comprendre son point de vue, à un tel point et en défiant tellement l'autorité à l'époque qu'en 1793, pardon, elle est exécutée sous la terreur, parce qu'elle s'est montrée critique au régime.
D'accord.
Et c'est pour ça que Olympe de Gouges, encore aujourd'hui, on arrive à s'en inspirer et à trouver ses textes. Comment dire
Inspirant, ouais.
Inspirant, mais surtout toujours moderne. Pertinent, en fait.
Ouais.
Mmh. Dans le débat actuel, parce que Olympe de Gouges, c'est une femme qui est militante. Elle s'engage évidemment pour les droits de la femme, mais elle a aussi fait beaucoup, beaucoup d'œuvres pour la libération à l'époque des esclaves et des hommes sur les îles. Elle est très investie et c'est aujourd'hui des causes qui peuvent être transposées à celles militantes actuelles.
Mmh.
La lutte antiraciste, la lutte féministe.
Oui, c'est des combats qui existent toujours, évidemment, aujourd'hui. On en entend l'écho bien souvent sur Cause commune. Comment est-ce que toi, tu as connu Olympe de Gouges ?
Olympe de Gouges, c'est une auteure que j'avoue m'a fait... une autrice, d'ailleurs, que m'a fait découvrir l'école. Mais que personnellement, quand je l'ai lu pour la première fois... C'était vraiment... J'ai été très très impressionné parce que on me l'avait vendu comme un texte écrit par une femme pendant la Révolution qui, réclame des droits, mais on s'attend pas à grand-chose souvent des textes de l'époque. Et pourtant, la majorité des lycéens et des premières dans ma classe...
Ouais.
On trouvait un grand intérêt dans ce texte. Pourquoi ? Parce que on peut débattre avec notre vision d'aujourd'hui de ce texte d'antan, ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, une autre œuvre qui est au programme, qui est Sido de Colette. Qu'il faut, même si c'est assez proche, il faut quand même la prendre avec une vision différente de la société.
Bah là, pour le coup, moi, je connais pas du tout Sido de Colette et nos auditeurs non plus. Donc, je pense que pour comparer les deux œuvres, il faudra attendre que tu nous les présentes les deux à la fois. Pour le bac, alors, qu'est-ce qu'on t'a demandé pendant ce bac blanc à propos de ce texte, l'exhortation aux hommes faite par Olympe de Gouges?
Ce qu'on demande aux élèves pendant le bac, c'est déjà d'avoir une connaissance générale sur le texte et l'œuvre en général, hein. Avoir le contexte, pourquoi est-ce que ça a été écrit.
Ouais, tu nous l'as dit tout ça, donc je pense que c'est bon.
J'ai dit. Mais surtout, ce qu'on nous demande, c'est de savoir interpréter le texte, savoir repérer les figures de style, savoir repérer les subordonnés, par exemple, qui sont des trucs qui sont
ah ouais, un peu de grammaire,
un peu de grammaire. Non seulement savoir les repérer, mais ouais. aussi les interpréter et leur donner un sens dans le texte.
Ouais.
Ce qui fait que, en vrai, le texte, faut l'avoir lu minimum 20 fois et faut l'avoir compris au moins la moitié de ces fois. Ce qui peut être très très dur. Notamment pour des élèves qui n'ont pas les clés. Parce que quand on a été élevé avec des livres écrits par des gens, par des mecs morts depuis 120 ans, depuis qu'on est petit, oui, ça peut être simple. Aujourd'hui, la première lecture...
Attends, t'es en train de dire que t'as été élevé à lire des livres écrits par des mecs morts depuis 120 ans?
Bah ouais. Bah, j'ai lu Germinal...
J'ai pas fait ça, moi. Ah oui, d'accord.
J'ai lu Germinal grâce à toi, quand même.
Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas faux. t'as lu Germinal un jour. Voilà. Eh bah, écoute, je te propose de changer de sujet, et puis d'abord de faire une petite pause musicale. Mais oui.
Avec Battle Lines de Kero Kero Bonito.
Écoutons ça, on se retrouve juste après.
Repeat
toujours à l'écoute de la première de Ouvre-la, l'émission magazine de Solal et Joseph, moi-même, que nous vous présentons le dimanche après-midi, si vous n'êtes pas en train de regarder Michel Drucker.
Vous pouvez nous écouter sur la FM Cause Commune 93.1 ou en DAB, ou sur internet à l'adresse cause-commune.fm.
Mais aussi sur Apple Play, sur Spotify, partout. On a eu beaucoup d'appels de professeurs de français, Solal, pendant que nous écoutions Kero Kero Bonito Battle Lines. On ne dit plus figure de style, on dit procédé littéraire. Tu voulais nous parler des élections américaines?
Alors oui, les élections américaines de 2024, c'est celles qui ont été tenues, je pense que vous le savez, le 5 novembre 2024, qui élisent Donald Trump en tant que président des États-Unis, qui a été investi il y a 6 jours, donc quasiment une semaine, le 20 janvier 2025. C'est des élections qui ont été marquées par la désinformation du camp républicain, qui a multiplié les fake news, et ça a aussi été une campagne les plus marquantes des États-Unis par l'investissement d'Elon Musk, le premier milliardaire mondial qui a déboursé plus de 270 millions de dollars dans la campagne pour faire gagner Trump. Et aussi parce qu'un des enjeux des élections, c'était les droits sociaux, notamment ceux reproductifs et l'accès à l'avortement, mais aussi les droits des personnes immigrées et des personnes LGBTI+.
LGBTI+, pour toi, ça signifie quoi ?
C'est un acronyme qui décrit toutes les personnes qui sortent de la binarité genrée et ou de l'hétérosexualité.
Ok. Voilà.
Qui sont du coup persécutés en général par l'extrême droite, mais par la société en général depuis quelques centaines d'années maintenant.
Ouais, mais aux États-Unis ça va vachement mieux. Moi, quand je vois les séries sur Netflix, elles sont toutes gay friendly, non ?
Aujourd'hui, aux États-Unis, malgré ce qu'on pourrait penser, Donald Trump vient de faire passer 3 amendements transphobes, dont un qui dit, je cite, que les sexes ne sont pas modifiables, et Donald Trump n'a jamais vraiment renoncé à l'idée de revenir sur le mariage gay qui a été voté en 2015, il me semble. Oui,
Ça dépend des États. En fait, les États-Unis, il faut se représenter que c'est un agglomérat de pays.
Oui.
Parler des États-Unis, c'est un petit peu comme parler de l'Europe.
Ouais.
À l'intérieur des États-Unis, et ben, bon, même si c'est des États qui vont avoir beaucoup de points communs, même s'il y a des règles fédérales et des lois fédérales qui s'appliquent à chacun des États, chaque État a aussi un niveau d'indépendance, ouais, un niveau d'autonomie.
Et du coup, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ça veut dire beaucoup de choses, et ce qu'on voit en ce moment, c'est les premières actions qu'il fait, c'est-à-dire déjà la déportation de migrants. Trump envoie les services de l'immigration faire des raids à des écoles et sur des lieux de travail. C'est-à-dire qu'ils vont aller récupérer toutes les personnes arrivées illégalement qui peuvent et les enchaîner et les renvoyer dans un pays, souvent le Mexique, enchaîné dans un avion. Alors c'est pas à s'en rappeler des périodes assez sombres de l'histoire, hein, et pour le coup c'est assez terrifiant parce qu'aujourd'hui on a des parents qui doivent faire de la prévention à leurs enfants, ou des professeurs qui ont peur que l'immigration vienne toquer à leur porte pendant les cours pour aller récupérer des élèves, soit qui ont des parents immigrés, soit même des élèves, des étudiants internationaux qui sont arrivés pourtant en Amérique légalement.
Alors, t'as raison de t'en offusquer, ça, pour le moins. C'est quelque chose qui arrive aussi en France où il y a des reconductions à la frontière qui sont organisées très très régulièrement.
Oui, et en France récemment, j'ai eu la chance de pouvoir C'était une conférence dans mon lycée avec des personnes chargées de prendre en charge des mineurs non accompagnés en France,
Ouais.
qui ont tous des témoignages, effectivement, de mineurs parfois accompagnés à la frontière. Et ce, malgré les obligations du droit européen de prendre en charge ces mineurs.
OK.
Malheureusement, les États-Unis ne tombent pas sous la législation européenne d'obligation de prise en charge des mineurs. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'organiser ces raids sur des écoles. Et parfois avec des enfants très jeunes, on parle d'écoles primaires. Voilà. Donald Trump et son arrivée, c'est aussi bien sûr le combat qu'on a vu pendant toute la campagne sur les droits reproductifs et l'accès à l'avortement. Trump est explicitement contre, il se considère pro-life, c'est-à-dire pour la vie, mais ce qui veut dire en réalité contre l'avortement et pour la mort de milliers de femmes qui ne vont pas mourir du manque de soins dû à ces causes.
Oh là, attends, qui
Enfin,
vont mourir?
qui vont mourir du manque de soins parce que l'avortement est un soin. C'est un. Comment on dit? C'est un acte médical qui, parfois, par exemple, dans le cas d'une grossesse extra-utérine, peut être fatal si il n'y a pas de soins.
Oui, d'accord.
Donc Trump se considère pro-life et il a dit qu'il nommerait des juges de la Cour suprême qui seront du même avis comme il l'a déjà fait, d'où les premières interdictions de pratiquer l'avortement dans certains États des États-Unis.
Ouais.
Comme dernière chose, enfin comme dernière action marquante de Trump, il y a la redéfinition de sexe et de genre dans la Constitution, qu'il confond l'un dans l'autre d'ailleurs. Donc il signe trois décrets transphobes, dont un qui déclare que les sexes ne sont pas modifiables, mais aussi il inscrit une définition dans la Constitution d'hommes et de femmes. Selon la production de gamètes durant la après la comment ça après
Après la
la
procréation?
conception après la conception
Ok.
c'est une différence qui est biaisée et un peu stupide. Pourquoi? Parce que avant un certain stade tous les embryons produisent des gamètes larges, ce qui veut dire que selon la définition de Trump, tout le monde est une femme, selon la Constitution américaine.
Bah écoute, peut-être que ça simplifierait les choses de considérer tout le monde comme une femme.
C'est, malgré le fait que ce soit assez drôle, c'est aussi, malheureusement, c'est grave, malgré ses erreurs. Parce que c'est mettre en jeu la vie de toutes les personnes trans qui vivent aux États-Unis que de leur retirer, premièrement, leurs droits fondamentaux, mais aussi de les considérer comme des personnes malades mentales, comme c'est maintenant autorisé sur certains réseaux sociaux,
Oui, sur Meta,
sur
où
Meta.
maintenant, voilà, on a levé le peu de contrôle qu'il y avait, le peu de, qu'on appelle ça, de modération qui pouvait y avoir. Et puis, la modération qu'on va laisser, eh ben, elle permettra d'insulter
Les personnes
facilement
trans.
voilà, les personnes trans. Et puis, ben, courage à vous, en fait.
Voilà. C'est surtout un problème pour les personnes trans mineures qui ne sont pas capables d'avoir accès à des soins qui pourraient leur être utiles. En France, on a aujourd'hui ce débat sur les bloqueurs de puberté qui permettent de retarder la décision d'un potentiel changement de sexe ou de prise d'hormones. Aux États-Unis, ces décrets vont encore plus loin, qui ils bannissent notamment, enfin déjà tous ses soins, mais ils interdisent aussi la mention même de personnes trans dans les médias, avec notamment la loi qui est passée dans certains États il y a quelques années, la loi Don't Say Gay, qui condamnait dans les écoles le seul fait d'évoquer des personnes LGBT. L'investiture de Trump, c'est aussi la présence encore plus puissante d'Elon Musk sur la politique américaine, mais aussi sur la politique internationale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent Elon Musk comme un peu un second président qui est un peu derrière les manettes de Donald Trump. Alors, outre le fait que ce soit profondément antidémocratique d'avoir un milliardaire qui fournit toute la campagne d'un candidat et qui possède les médias au point où ça en devient quasiment dystopique, c'est aussi un gros coup. Enfin, Elon Musk est un gros con, mais c'est aussi un gros coup pour la liberté d'expression. Les réseaux sociaux en Amérique sont maintenant sont possédés par des milliardaires qui ont la main mise sur les informations qui vont être plus promues ou moins. Et c'est pour ça que récemment, on a vu un soi-disant bug sur Meta qui avait banni tous les termes qui se référaient au parti opposant à celui de Donald Trump, le parti démocrate, et toutes les mentions de gauche en Amérique.
Ouais.
Et oui. Ça a été réglé, entre guillemets, et considéré comme un bug, mais c'est assez bizarre que ça s'attaque uniquement à ces mentions-là. Et dernièrement, un problème d'Elon Musk, c'est son soutien à l'extrême droite en Europe. On le voit notamment en Allemagne, où après avoir fait un salut nazi, il va soutenir l'AFD, qui est le parti d'extrême droite allemand, qui, et je le rappelle, a été pris dans une controverse de où ont été révélés leurs plans de renvoyer des migrants et de déporter des migrants, comme cela avait été fait pendant la domination de l'Allemagne nazie.
Oui, et puis l'AFD, il demande à ce que les Allemands actuels ne soit pas n'ait plus à porter la responsabilité de leurs grands-parents, donc grosso modo
oui,
voilà, on n'enseigne plus l'histoire, quoi.
On n'enseigne plus l'histoire et on pardonne le nazisme, ce qui est aujourd'hui illégal en Allemagne. Si Elon Musk avait fait son salut nazi en Allemagne, il aurait pu être condamné et il aurait été poursuivi en justice.
Bah, je sais pas, parce que pour le coup, l'AFD, ils ont fait des affiches.
Oui, et sauf que c'est pas explicite. Enfin bref, c'est complexe, c'est un sujet qui est très complexe. N'empêche qu'on a un problème quand on a des milliardaires qui vont soutenir l'extrême droite et influer sur la vie politique, alors que ce n'est pas leur rôle, sincèrement.
Tu nous proposais, juste avant de lancer le générique, d'écouter Aesha Erotica, Political Interlude.
Eh oui.
Tu veux en dire deux mots avant de le lancer ?
C'est une chanson d'une fille qui a grandi en Amérique et qui parle de son pays. C'est assez explicite.
Attention, what's that sound? This country's going down. Attention.
on arrive à la fin de cette première émission de Ouvre-la, l'émission d'un jeune.
Mais oui, c'était très intéressant. C'est un petit magazine comme ça, un petit magazine de société, d'actualité, à la fin du week-end, au milieu de l'après-midi.
Alors, on se retrouve dans à peu près un mois en fonction des vacances scolaires et de la vie. Et on se retrouvera, quoi qu'il arrive, sur Cause Commune en 93.1 FM ou en DAB ou sur le site cause-commune.fm pour cette émission et plein d'autres.
Ouais, et puis donc tu reviens quand ton emploi du temps de lycéen te le permet, en fait.
Oui, c'est ça, enfin, emploi du temps assez chargé, hein. On rappelle que la majorité des lycéens font en majorité 31 heures par semaine.
Eh ben dis donc, 31 heures et ça se plaint.
Voilà. Vous pourrez très bientôt y réécouter cette émission et la partager en podcast sur votre smartphone en installant l'application Cause Commune. C'était une première émission, un pilote presque, et j'espère vous retrouver bientôt.
D'ici là, portez-vous bien, soutenez les collégiens et les lycéens qui vous entourent.
Et à une prochaine!